l'universalité, l'universalité de la pensée philosophique du XXe siècle, l'universalité de la pensée philosophique du XXe siècle repose sur la controverse existante entre les individualités d'écriture et l'instinct surréaliste sous-jacent chez la plupart des auteurs, tout en respectant la linéarité de la pensée du monde occidental.
Oh la vache!
Pilotage, la philosophie à tous les âges.
La philosophie, ça devrait plutôt être une ouverture sur le monde, se dire voilà, la philosophie c'est quelque chose d'ouvert, vous pouvez avoir toutes les opinions, donc profitez-en, dites ce que vous voulez. Alors, est-ce que vous aimez ça, vous, la philosophie ?
J'aime parce que j'aime bien les histoires que tu racontes, j'aime bien parler, et surtout qu'on parle dans le micro.
Philotage, la philosophie à tous les âges. Bonjour et bienvenue sur Radio Saint-Afrique pour l'émission qui fait philosopher petits et grands, c'est Philotage, la philosophie à tous les âges. Et pour le mois de novembre, c'est une émission spéciale métaphysique sur le thème du monde que je vous ai préparé. Alors pour commencer, peut-être vous dois-je une petite explication sur ce gros mot que semble être la métaphysique. La physique, tout le monde voit ce que c'est. On a tous eu des profs de collège en blouse blanche qui versaient des trucs sur d'autres trucs dans des tubes à essai pour voir ce que ça donnait. Cette science qu'ils essayaient de nous enseigner, c'est la science du réel, de la nature. En bref, ce qui est physique, c'est ce qui existe, ce qui est là, concret, que l'on peut observer, toucher, prouver. C'est un gros fourre-tout dans lequel on va caser tous les objets naturels ou matériels. Méta signifiant au-delà, la métaphysique va donc concerner tout ce qui est au-delà du réel, du sensible, ce que l'on ne pourra ni observer, ni toucher, ni prouver. Alors la métaphysique va englober des thèmes très variés. Et celui qui nous intéresse ce mois-ci, c'est le monde, c'est-à-dire l'ensemble de tout ce qui existe, dans l'espace et dans le temps. L'univers, quoi. En voilà un truc mystérieux et chaotique. Et par-delà toutes les théories philosophiques, c'est peut-être la musique de Bartok qui exprime le mieux, à mes yeux, l'immensité, la complexité, le bordel sans nom et la beauté du monde. Que dire de plus ? Voilà le monde. Il est là. Mystérieux, aiguisant notre curiosité. Dès l'enfance, il nous questionne. Quelles sont ses limites? D'où vient-il? Et, un mercredi du mois de septembre, mes petits philosophes du lieu-dit se sont posés les mêmes questions. Doudou Lapin, à toi! Alors, cette semaine, Doudou Lapin va nous raconter une histoire sur le monde. Hier, Sophia a été à l'école et son instituteur lui a raconté le système solaire. Quand elle est revenue à la maison, elle était toute excitée, elle voulait tout raconter à Doudou Lapin. Elle a pris un livre et elle lui a montré. Elle lui a dit, tu vois là, la petite boule bleue, eh ben, c'est la Terre. Et à côté, le tout petit point, c'est la Lune. La grosse boule jaune, c'est le Soleil. Et puis tout autour, il y a plein de planètes. Ça, c'est le système solaire. Et puis après, il y en a encore d'autres, des planètes qui sont dans d'autres systèmes. C'est immense, c'est tellement grand. C'est bizarre quand même. Parce que Sophia, elle se disait, quand elle va l'été chez sa mamie en vacances, ça met 5 heures pour être en voiture pour y aller. C'est long, c'est loin. Mais c'est tout petit comparé à ce qu'il faudrait pour aller jusqu'à la Lune, ou jusqu'à Mars, ou jusqu'aux autres systèmes. Est-ce que tout ce monde-là, est-ce qu'il n'aurait pas de fin? Est-ce que ça serait infini? Ou est-ce qu'il y a un bout quelque part? C'est bizarre le monde, elle s'est demandé Sophia. Et Doudou Lapin, il s'est posé la même question. Le monde, d'où il vient? Pourquoi il est là? Et est-ce qu'il a une fin?
Il tourne en rond. Du coup, c'est comme si il n'y avait pas de fin. Ça tourne. C'est rond.
quand tout le monde est mort, eh bien là, elle est toujours là.
Alors ça, c'est très très intéressant ce que tu dis, Gerson. Quand tout le monde est mort, le monde, il est toujours là. Est-ce que c'est vrai ça? Est-ce que le monde, il sera toujours là?
Oui. Et peut-être qu'il y aura d'autres gens.
Ouais, mais si tout le monde est mort, il ne peut pas avoir d'autres gens. Parce qu'on ne peut pas faire d'enfants.
Si, parce qu'ils vont faire des enfants, eux, ils vont mourir. Et ces gens, ils vont faire d'autres enfants, ils vont mourir, ils vont faire d'autres enfants, etc.
Et vous pensez que ça sera toujours des hommes? Des êtres humains comme nous?
Des animaux aussi. Parce que les animaux, ils vivent aussi un peu comme nous. Ils mangent, ils dorment, ils boivent, puis ils se reproduisent.
Mais si même les animaux et les humains, tout le monde est mort, ben il y a toujours la Terre, quoi. Il y a les terres, les autres planètes. Même eux qui habitent sur les autres planètes, ils sont morts, mais en même temps, il y a toujours leur Terre.
Et alors là, tu parles des gens qui habitent sur d'autres planètes. Ça s'appelle les extraterrestres. Vous y croyez, vous, aux extraterrestres?
Eh bien, le papa de ma maman, il avait dit qu'il avait vu des extraterrestres, alors que c'était une blague.
Moi, je sais pas si c'est vrai, à l'école, il y a des triplés, là où leur maman est turque, et elle leur a dit apparemment qu'il y avait des extraterrestres en Turquie. Mais je sais pas si c'est vrai.
Et vous les imaginez comment, vous, les extraterrestres?
Tout petits.
Moi, je les vois avec un casque, et là, c'est transparent pour qu'ils voient et qu'ils sont verts.
Des fois, il y en a des verts, mais des fois, on a des bleus.
Et vous pensez qu'ils sont gentils ou pas?
Bah, peut-être que ça dépend lesquels. Il y en a qui sont gentils et peut-être qu'il y en a qui sont méchants.
Et si jamais un jour vous en rencontrez un, vous lui direz quoi?
Comme il parle pas notre langue.
Mais peut-être que si on croit qu'il est gentil, on pourrait lui dire des mots. Je sais pas, je dirais bonjour, comment tu t'appelles, et puis voilà. Et puis, s'il comprend pas, on peut faire des gestes. Mais en tout cas, moi j'aurais un peu peur.
Les extraterrestres, il y avait un philosophe très connu qui y croyait, il s'appelait Emmanuel Kant, c'est un grand philosophe du XVIIIe siècle, il croyait lui qu'il y avait des extraterrestres et qu'ils étaient raisonnables comme les hommes, qu'ils avaient une raison, qu'ils étaient intelligents. Et il s'est posé plein de questions sur le monde, ce monsieur, et notamment il s'est demandé... Eh ben, est-ce qu'il y a une fin au monde? Si jamais, par exemple, on pouvait prendre un vaisseau spatial, ça n'existait pas à son époque, mais si jamais on en avait un, et qu'on voyageait, est-ce qu'il y a un moment où ça s'arrêterait? Ou alors est-ce qu'on pourrait aller loin, 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 sans jamais s'arrêter?
Mais si on a une fusée, on peut aller sur une des planètes, et s'il n'y a personne, t'en vas dans une autre. Puis après, si t'atterris sur Mars, eh ben, tu verras des gens après... des martiens, après tu leur parles mais ils comprendront pas trop.
Après tu peux continuer, après il y aura plus d'oxygène déjà, et après peut-être qu'il y aura plus rien, il y aura même plus de ciel.
Et il y aura quoi? Il y aura une barrière avec interdit d'aller plus loin? Il y aura un grand gouffre? Il y aura quoi? Qu'est-ce qu'il y a tout au bout de l'univers?
Moi je dirais des météorites.
Moi, je dirais avec plein de pierres avec des traces d'animaux.
Mais si les gens qui habiteront dans les planètes qui sont en dehors de la Terre, si elles seront cassées, il y aurait un petit peu de morceaux qui tomberont ici.
À la fin du monde, il n'y aura plus rien. On pourra même plus voler avec la fusée.
Alors, tu parles de la fin du monde. Tu dis qu'il n'y aura plus rien du tout. Il n'y aura même plus la Terre, même plus le Soleil?
Si, peut-être, mais on ne sait pas, parce que personne ne l'a fait. Il y aura toujours le Soleil, mais on ne le verra plus parce qu'il sera très loin, du coup il fera tout noir. Il y aura peut-être des étoiles qui éclaireraient.
Et alors là, on parle de quand il n'y aura plus rien du tout, donc dans très très longtemps. Mais si on parle du passé maintenant, avant, il y a très 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 longtemps, avant qu'on soit né, avant même qu'il y ait des hommes... Comment il est venu le monde?
Peut-être qu'avant il y avait des dinosaures, mais maintenant, après il y a eu nous.
Mais il y avait des gens préhistoriques après les dinosaures.
Avant les dinosaures, avant les hommes préhistoriques, avant la Terre. Comment elle est venue la Terre? Et le soleil ?
Il y a une fille, elle a ramené un caillou qui était avant les dinosaures.
Et d'où il vient ce caillou ?
Ça vient de sa maison.
Je sais plus, mais moi, une fois, j'ai trouvé un fossile.
Ça vient de sa maison.
Mais la Terre, comment ça se fait qu'elle est là ? Hein ? Avant qu'il y ait les dinosaures, avant qu'il y ait les petits animaux qui font les fossiles aujourd'hui, pourquoi elle était là, la Terre ? D'où elle vient ?
Peut-être qu'au début, c'était un atome, et puis qu'il a grossi, 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 grossi.
Ça change de plus en plus, parce que quand il y avait les dinosaures, c'était un peu... Il n'y avait pas de maison, il n'y avait rien, il y avait les dinosaures et la Terre. Et puis après, il y avait les hommes préhistoriques, c'était un peu normal, il y avait leurs cavernes et tout. Après, c'était nous, enfin, je crois. Et puis... Après, avec les maisons et tout. Et puis nous, une fois avec l'école, on est allé voir le château.
Et alors, bon, il y a des gens qui se demandent d'où ça vient, le monde, la terre, le soleil, tout ça. Mais il y a plein de gens qui ont plein d'avis différents. Et il y en a qui pensent que ce monde, c'est bon, c'est quelque chose de bien. Et il y en a qui pensent au contraire que c'est quelque chose de mal, qu'il est mauvais. Enfin, un petit tour pour que chacun dise s'il pense que le monde, il est bon ou il est mauvais.
Le monde, c'est bien parce que s'il n'y avait pas de monde, on pourrait pas vivre.
Des fois, il y a des gens qui polluent, donc on peut dire que c'est pas trop bien.
Aussi, peut-être que s'il n'y avait rien, on pourrait pas être bien et puis avoir se sentir bien. Il paraît que dans longtemps, le soleil va exploser.
La Terre aussi.
Peut-être pas.
Et alors, une fois que ça aurait explosé, si jamais ça explose, qu'est-ce qui se passera ?
Tous les gens mourront, ils pourraient plus vivre. Et aussi les animaux.
Et c'est tout ? Après, c'est fini ?
Après, peut-être qu'il y aura toujours les extraterrestres qui vivront. Mais peut-être que après, il y aura plusieurs d'autres mondes qui arrivera.
Parce qu'il y a des messieurs très sérieux qui font beaucoup de recherches, des scientifiques qui disent que le monde, il grandit. Comme un petit enfant qui grandit, un bébé qui devient un enfant et qui devient un adulte, le monde, ça serait pareil. Et du coup, y aurait toujours des nouvelles planètes. Qu'est-ce que vous en pensez ?
Il paraît qu'après la mort, on a une autre vie.
Peut-être pas parce que aussi souvent, ce sera tes enfants après toi. Peut-être qu'il y aura une autre planète qui pourra venir parce qu'il y aura un autre petit atome.
Bon, je pense qu'on va s'arrêter sur cette idée du petit atome là qui donnerait naissance à un autre monde. C'est une très jolie idée.
Je m'appelle Madelon et puis j'aime bien la philosophie parce que j'aime bien réfléchir. Et me poser des questions sur plusieurs choses.
Je m'appelle Gerson et puis j'aime tout goûter l'eau.
Je m'appelle Talika et moi ce que j'aime bien c'est poser des questions.
Et voilà, Kant et ses antinomies de la raison pure n'a qu'à bien se tenir. La relève est assurée. Mes petits philosophes du mercredi après-midi me surprennent à chaque fois par la fraîcheur, certes, mais aussi par la profondeur de leurs réflexions. Nous, adultes, avons toujours bien plus de réserves à avancer nos idées. Surtout ceux qui n'ont pas, ou si peu, fait de philo, qu'ils restent coincés dans les préjugés et la crainte qu'elle peut inspirer. Mais deux ou trois demi plus tard, l'apéro étant entamé, on peut, la crainte de dire des bêtises s'en étant allé, passer à l'étape suivante, la philo. C'est tout le principe des apéros philo. Alors, le thème ce mois-ci de notre émission Philotage, c'est le monde. Un volontaire pour la première citation ?
Je cite « L'homme, du fait qu'il écrit des livres, se change en univers, et le propre d'un univers, c'est justement d'être unique. L'existence d'un autre univers le menace dans son essence même. » Milan Kundera. Donc moi, en ce qui me concerne, je n'ai jamais fait de philosophie, donc je ne peux pas partir sur un axe philosophique. La seule chose que je peux dire en lisant ça, c'est faire part de mon désaccord par rapport à cette citation. Je pense qu'au contraire, si l'homme représente un univers, le propre de l'homme, c'est de vouloir aller vers les autres aussi. Donc, je ne me sens pas concernée, moi, en tant qu'individu, à aller vers un autre univers. Donc, bon, je ne sais pas si je peux philosopher ou si on peut philosopher sur ce genre de sujet, mais je ne me sens pas en phase quand je lis que je peux me sentir effectivement menacée en tant qu'individu unique. Donc, je me sens effectivement dans un univers, au milieu d'autres univers, et en tant qu'être humain, qu'être vivant dans cet univers, je n'attends qu'une chose, c'est de croiser d'autres univers et de pouvoir rentrer en interaction les uns les autres. Donc, cette citation ne me convient pas en tant que telle. Après, voilà, c'est mon état d'esprit.
La première partie de la citation me choque pas. Moi, c'est la dernière phrase. C'est l'existence de notre univers, le menace dans son essence même. Il y a quelque chose de enfin, menacé. C'est assez négatif. Je trouve ça assez étrange comme citation, en fait. Qu'un univers peut être menacé par un autre univers. On pourrait le voir autrement. On pourrait dire qu'ils s'enrichissent ou qu'ils sont complémentaires. Lui le voit comme une menace. Ça me paraît assez... comme s'il était sur la défensive. Alors Milan Kundera, il est écrivain, donc c'est quelqu'un qui a un univers particulier en plus dans ses livres. C'est l'insoutenable légèreté de l'être, et qui est quand même voilà, c'est assez, assez particulier. Et c'est le menace là, ce terme de menacer, je le trouve assez étrange quand même.
Alors c'est une citation de Stefan Edberg. Quand l'homme n'aura plus de place pour la nature, peut-être la nature n'aura-t-elle plus de place pour l'homme. Bon, c'est assez court. Bon, ben moi, je crois que plusieurs personnes dans la salle, en tout cas que je connais, doivent être un peu interpellées parce que, en fait, là, on est plusieurs à faire une formation qui a plus ou moins de lien avec la nature. On travaille sur l'agriculture biologique. Donc. Moi, je lis cette phrase un peu comme quand l'homme n'aura plus de place pour la nature, de place, bon, j'imagine, enfin, de place d'intérêt, de place dans son cœur pour la nature. Peut-être la nature n'aura-t-elle plus de place pour l'homme. À ce moment-là, effectivement, il aura peut-être tellement nié la nature, il aura tellement fait peu de cas de la nature qui est autour de lui qu'il aura donc peut-être tellement dégradé qu'à ce moment-là, ben, la nature elle lui renverra un peu l'ascenseur et elle sera dans un tel état qu'il n'y aura même plus de vie, enfin de place pour que l'homme puisse vivre. Sur Terre. Je l'interprète un petit peu comme ça. Oui. Ça me semble, je dirais presque que ça me semble un peu une évidence quand même.
Toute philosophie est indissociable du monde émotif duquel elle émerge. Son intérêt vient du fait qu'elle témoigne d'une expérience humaine, d'une rencontre, d'un monde intérieur avec le monde extérieur. Donc, citation d'Hubert Reeves. Donc, je ne savais pas qu'il était philosophe. Je savais que c'était un scientifique de renom. Moi, j'ai beaucoup aimé donc la première phrase, donc l'implication du philosophe dans la société dans laquelle il vit, et donc voilà, donc de la relation entre le monde, son monde à lui et de la façon dont il le voit et le monde extérieur. Voilà donc la société.
Moi, je rajouterais que, à mon sens, il est difficile de faire la différence entre le monde intérieur et le monde extérieur et où s'établissent les limites entre ce que la société, elle influence sur toi, comment être construit et comment finalement c'est faux de se dire qu'on peut être indépendant de la société parce qu'elle nous a construit, on est né là-dedans, on est né dans des modèles, des façons de penser, des choses qu'on nous inculque depuis qu'on est gamin et que c'est difficile de s'en défaire. Et donc du coup, je suis à peu près d'accord, sauf que moi, j'aurais du mal à dire où s'arrête ce que je me suis construit toute seule. Et où commence ce qu'on m'a construit, la façon dont on m'a construite.
Toute philosophie est indissociable du monde émotif duquel elle émerge. Le terme émotif, il semble dire que les idées ne proviennent des émotions, qu'il n'y a pas de pensée sans émotion. Et donc ça rend la philosophie comme une... Enfin, ça fait de la philosophie une démarche personnelle et individuelle. Fonction des émotions que l'on ressent et de la vie que l'on a.
Je crois que c'est justement le fait d'avoir sa propre pensée qui dépend des émotions que l'on peut ressentir et que l'on ressent individuellement, même si parfois il y a aussi l'influence culturelle qui fait qu'on éprouve telle ou telle émotion, mais à l'origine c'est quand même spontané, une émotion. Et c'est vrai que pour réagir personnellement et donc peut-être créer un nouveau courant philosophique, enfin quelque chose comme ça, il faut éprouver soi-même, je pense. Sinon, on ne fait que répéter.
Nous n'avons pas de futur. Pour tout le monde, le futur parfait, c'est la mort. Notre seul bien, c'est le présent, la minute même. Celle qui suit n'est déjà plus à nous. Et c'est Jean Guiano. Je pense qu'on a vachement du mal, que c'est humain, hein, mais de se dire on vit le présent sans penser vraiment au futur. C'est-à-dire que le futur nous parasite dans toute notre vie. Donc c'est-à-dire qu'à chaque fois qu'on fait quelque chose dans le moment présent, qui s'enfuit très vite en plus, et on pense déjà aux conséquences qu'il pourrait avoir dans le futur, et en plus on le fait avec un passé derrière nous qu'on traîne avec ses casseroles, ses, voilà, et donc du coup je me dis... C'est quand même, enfin moi en tout cas, ça me paraît très compliqué d'arriver à vivre l'instant sans s'encombrer de son passé sur des choses sur lesquelles de toute façon on n'a plus aucune, enfin, on n'a plus prise, merci, sur son passé. Et d'un autre côté, on espère avoir de la prise sur notre futur. Donc ça fait qu'on est au milieu et qu'en fait on n'a jamais vraiment de prise sur grand chose, j'ai l'impression.
Alors moi je suis pas tout à fait d'accord, au contraire je pense que on est ce qu'on est parce qu'il y a eu un hier et qu'il y aura un demain, et que hier n'était pas obligatoirement un fardeau à porter, c'est son histoire, c'est sa vie, c'est ce qu'on est devenu, et qu'il faut pouvoir avancer avec cet hier, effectivement poser sur le côté de la route ce qui nous importe plus ou ce qui nous fait du mal, ce qui est lourd à porter, mais bon, si je suis ce que je suis aujourd'hui, c'est parce qu'il y a eu ma vie d'hier, et si j'avance demain en oubliant ce qui s'est passé, en me mettant de côté ou en me disant que c'est trop lourd, j'avance dans un tunnel sans lumière, puisque du coup, plus j'avance, plus ça s'assombrit derrière. Je trouve ça dommage, parce que du coup, on laisse de côté d'où on vient. C'est pas obligatoirement un fardeau, c'est au contraire notre vie, notre histoire. Donc c'est beau, il faut le garder, il faut en être fier. Et quand ça fait mal, on fait en sorte d'apaiser cette peine. Et le futur, c'est pas obligatoirement également du mal, c'est vers là où on est. Alors effectivement, bon, le terme qui me fait un peu plus de peine dans cette citation, c'est le mot mort, parce qu'on se dit il y a une fin, mais qu'avant cette mort-là, il y a une vie, il y a des passions, il y a des amours, il y a des rencontres, qui fait que bon, ben voilà, le chemin, il est hier, maintenant et demain. Et que si on s'arrête à aujourd'hui, on vit au moment présent, et hop, chaque seconde, elle fuit, chaque seconde s'arrête, chaque seconde n'existe plus, et on passe de bon en bon, sans chemin direct d'une seconde à l'autre. Et je trouve ça dommage, parce qu'en fait, voilà, l'essence même de l'individu, c'est cette continuité d'hier à demain. Donc voilà, moi je rebondis un petit peu là-dessus. Alors, je ne sais pas si c'est effectivement une réflexion philosophique, c'est cette vision-là que j'ai de la vie. Et si effectivement la vie s'arrête à la mort, bon, ben que d'hier, du moment où je suis sortie du ventre de ma mère jusqu'à cette mort, que cette vie est une continuité douce, et après apaisante, avec ou pas mes malheurs, avec ou pas mes peines, mais il faut les garder. Si je suis forte aujourd'hui, c'est parce que j'ai eu des peines hier, et si jamais je suis en peine aujourd'hui, je serai encore plus forte pour demain. Donc la vie est un lien perpétuel qu'il faut porter à bras le corps, et surtout ne pas oublier, parce que je suis forte aujourd'hui parce que j'ai eu mal hier. Voilà.
Juste sur ce que disait Valérie, je connais un proverbe africain qui dit si au moment présent tu ne sais pas où tu vas, regarde d'où tu viens.
Par rapport à ce que Giono dit du futur, je pense que le futur n'existe pas. Le seul futur qui existe, à mon avis, et c'est pour ça qu'il dit que le futur parfait, c'est la mort, le seul futur qui existe assurément, c'est la mort. Même si on ne peut pas la dater. Heureusement qu'on ne peut pas la dater. Donc le futur n'existe pas, en fait. Ce qui existe, c'est ce qui a existé, c'est le passé. Ce qui existe, c'est le présent. Et ça ne veut pas forcément dire de vivre dans le passé ou de vivre le présent, parce que vivre uniquement dans le présent, c'est pas forcément. Mais c'est le fait de le futur, comme le futur n'existe pas et qu'on ne peut pas le maîtriser, la seule chose qu'on possède réellement, c'est le présent. Le passé, quand on voit son passé, chaque personne voit son passé, elle voit l'interprétation du passé qu'elle a eu. Lorsque les événements se sont produits dans sa vie, elles étaient le présent. À ce moment-là, il les vivait d'une certaine manière. Aujourd'hui, c'est devenu son passé qu'il analyse, qu'il le construit, ou qu'il le construit, ou qu'il le déconstruit, ou qu'il le détruit. Mais c'est une analyse présente sur le passé. Et le futur n'existe pas encore. Donc la seule chose qu'on puisse avoir réellement, c'est le présent, qui est effectivement une construction de plusieurs éléments, mais qui est la seule chose qu'on possède, finalement, qu'on peut posséder, finalement.
Enfin, je ne veux pas dire grand-chose, mais en fait, le présent, on ne le possède pas, puisque à chaque seconde, il passe et il devient le passé. Donc, on vit au présent. C'est vrai, ce que tu as dit, c'est là, c'est tout à fait vrai.
C'est la légèreté de la vie, c'est que c'est la seule chose qu'on a, et en même temps, c'est quelque chose d'infime.
Alors ça c'est subjectif, hein. On trouve ça léger ou lourd, ça dépend.
Tout à fait d'accord. C'est subjectif.
Parce que c'est vrai que la mort, on est certain que ça arrivera, et évidemment le futur, on n'en est pas certain, parce qu'on peut être mort, on ne sait pas quand, quoi, peut-être tout de suite. Mais sinon, oui, bien sûr, on vit au présent. Et moi, quand même, il disait que nous n'avons pas de futur, c'est faux, dans le sens où on ne le possède pas, mais enfin on le prépare sans arrêt, finalement. On le prépare sans arrêt à partir de l'expérience du passé qu'on a. Donc quelque part, on se projette dans le futur, donc il existe pour nous, en tout cas. On y pense quand même, surtout si on n'est pas tout seul. Et par contre, c'est vrai, il est normalement inconnu, quoique malheureusement, ou heureusement, probable, assez souvent. Enfin, je dis malheureusement, ça c'est politiquement, mais... Enfin bref, voilà.
Le monde n'a pas besoin qu'on y mette de l'ordre. Le monde est ordre incarné. C'est à nous de nous harmoniser avec cet ordre. Ça me fait penser un peu aux philosophies orientales. Les choses existent en tant que telles, on ne peut pas les comprendre parce que les causes, les causalités, les conséquences nous échappent et ne sont pas accessibles par notre intelligence. Et il faut au contraire se laisser aller, vivre le plus proche possible de cette réalité, sans pour autant se laisser...
Ne pas y aller.
Oui, c'est ça, être en accord, mais ça ne veut pas dire non plus être ne pas se... On peut quand même se révolter, je veux dire, on n'est pas obligé d'être toujours dans le droit fil des choses. Et ça me fait penser un peu à cette citation celle de Giono avant, qui parlait de l'instant présent. Parce que c'est une forme de parallèle entre le fait d'accepter la réalité... être en harmonie avec ce qui nous entoure et vivre dans l'ici et maintenant et dans l'instant présent.
Moi, je voulais juste revenir sur la notion d'ordre incarné. Je vais prendre une casquette complètement différente, mais moi, je suis un peu biologiste de formation. Et c'est assez hallucinant quand on voit la vie, comment c'est juste... Tout est à sa place, tout a son rôle, tout a son... C'est l'ordre incarné. Pour moi, c'est ça, l'ordre incarné. C'est comment la nature et tout ce qui nous entoure... À part ce que nous, on construit, mais même nous, on est ordre incarné. Mais ce qu'on construit et ce qui n'est pas vivant, ce n'est pas tout à fait la même chose. Mais j'ai l'impression que, en tout cas, tout ce qui est vivant, c'est vraiment... Enfin, ils s'ordonnent, ils trouvent tous leur place au fur et à mesure, machin. Et ça me fait juste un peu penser que l'homme, à des moments, je ne suis pas sûre qu'il n'aille pas, contrairement à cet ordre un peu établi des choses.
Oui, je voulais réagir donc, par rapport au fait que l'homme n'aurait pas besoin de mettre de l'ordre. Pourtant, depuis des siècles, c'est ce qu'il fait. Il a toujours besoin de maîtriser toutes les interactions de son environnement. Donc, c'est sans cesse une course contre les éléments dans un but souvent défini pour lui.
Alors, ma citation, on a eu des écrivains et des philosophes, j'ai un musicien. Il y a l'univers du connu et l'univers de l'inconnu. Entre les deux, il y a The Doors. C'est Jim Morrison. Bon. Donc, on reconnaît bien l'ego du monsieur, quand même. Hein. Parce que, il n'a jamais été très modeste dans sa vie. Il avait une certaine... Je ne sais pas s'il était modeste ou non. C'est peut-être méchant de dire ça. Mais c'était quelqu'un qui était... qui prenait de la place, on va dire. Quoi. Quand il était là, il était là. Quoi. Il avait un certain charisme. Il dégageait quelque chose d'énorme. Et il était visiblement persuadé que The Doors était la solution. Voilà. Donc, comment dire ? Sa musique était quelque part, on va dire, psychédélique. Elle était... elle partait dans des chemins un petit peu... Pardon ? Elle est ?
Elle est encore.
Elle est encore, oui. Elle est encore, c'est vrai. Mais il y avait Il y avait effectivement un univers particulier, que lui situe donc entre le connu et l'inconnu, ou comme une liaison à la limite, comme une espèce d'interprète entre le connu et l'inconnu. C'est nous sommes le lien, et nous sommes, nous montrons un petit peu, nous expliquons, nous montrons un petit peu le lien. Il se voyait un petit peu comme ça. Alors, par rapport à sa musique et par rapport à ses chants, par rapport à tout ça, c'est vrai qu'il y avait parfois quelque chose d'un peu. On avait l'impression parfois qu'il partait un peu, quoi. Enfin, qu'il était. Voilà. Et donc, oui, il y avait peut-être quelque chose comme ça. Il y avait aussi quand même une bonne dose de drogue là-dedans. Est-ce que. Il faut quand même admettre que ça jouait probablement un rôle. Dans sa musique aussi. Et ça a joué un grand rôle dans la fin aussi. Voilà. Mais ça reste quand même une. Je ne sais pas si c'est une citation philosophique ou non, mais ça reste quand même. Il avait quand même une il ne faisait pas de la musique parce qu'il faisait de la musique. Il voulait jouer un rôle. Il avait une volonté de jouer un rôle particulier, visiblement, quoi. Ça, je ne savais pas, mais il avait cette volonté-là. Il ne se contentait pas de jouer parce que ça lui plaisait. Il ne se contentait pas de jouer parce que ça lui permettait de s'extérioriser. Il voulait créer quelque chose. Il voulait créer un univers. Voilà. Est-ce qu'il est arrivé? Je pense que oui, parce que sinon, on ne l'écouterait plus. On ne saurait plus qui il est. On ne saurait plus qui est son groupe, etc. Donc, il a probablement réussi à créer cet univers. Est-ce qu'il est le chaînon entre le connu et l'inconnu? Ça reste une interprétation et probablement une question de goût. Voilà.
Non, parce que je me dis que la phrase, bon, elle a été écrite en anglais. Donc, si en anglais, il y a l'univers du connu et l'univers de l'inconnu. Entre les deux, il y a les danses. Ça peut être entre les deux, il y a les portes. Donc, les portes entre le connu et l'inconnu. Donc, ça, de suite, ça a une signification. Donc, comme tu dis un peu, le groupe serait un passage, enfin, servirait de. Oui, enfin, permettrait le passage entre deux univers, en fait. Enfin, moi, je l'ai un peu compris comme ça. Je ne sais pas si c'est un jeu de mots en utilisant le nom de leur groupe qu'il a voulu. Enfin, un jeu de mots qu'il a voulu faire un petit peu. Voilà, non, c'est tout.
Probablement, ça montre aussi que le nom du groupe n'est pas un hasard.
Oui, je pense aussi, effectivement, que tout l'univers psychédélique, la drogue et tout, c'est sûrement, ça imprègne sûrement cette écriture. Je ne sais pas s'il a écrit autrement que sous l'effet de la drogue. Bon, enfin, voilà. Mais...
Plus généralement, c'est le rôle de l'artiste qui sert de... qui fait découvrir une autre réalité derrière la réalité ordinaire, qui donne une vision du monde. Strange days have found us. Strange days have dragged us down. They're going to destroy.
Alors c'est de Nietzsche. Tout individu collabore à l'ensemble du cosmos. Hein, j'ai d'abord trouvé ça un peu grandiose. ça fait penser à l'histoire du papillon qui peut provoquer je ne sais quel cataclysme à l'autre bout du monde. Bon, peut-être, mais c'est pas évident, quoi, hein, au premier abord. Et ça fait penser aussi peut-être aux gens qui se prétendent des gouttes d'eau insignifiantes. Qui ne peuvent pas faire grand-chose dans ce monde et qui doivent subir. Si on en croit Nietzsche, apparemment, on a tous notre importance, quoi, dans le cosmos. Sauf que le cosmos, c'est très grand, hein, c'est une échelle qui nous dépasse complètement. Et Enfin, moi, je dirais plutôt que, bon, on est sûr que l'espèce humaine, pas forcément l'individu, enfin l'individu aussi, mais l'espèce humaine a une grande importance pour la planète Terre, en tout cas, qu'on est bien en train d'abîmer, je trouve, qu'il y a sûrement encore beaucoup de ressources, hein, mais bon, ça serait bien qu'on se calme quand même en tant qu'espèce. Qu'on en revienne à une autre philosophie, sûrement, à une façon de considérer la nature, la terre, le ciel et tout ça, autrement, comme, non pas comme quelque chose à dominer, mais quelque chose avec qui on doit vivre en harmonie et respecter, je trouve. Et bon, je trouve ça assez joli comme phrase, mais ça me dépasse quand même, quoi. Je ne suis pas capable de savoir vraiment... par rapport au cosmos, je pense que ça nous dépassera toujours, d'ailleurs, parce qu'on peut pas regarder le cosmos d'en haut. On est forcément dedans. Déjà, la Terre, on est dedans. On est même dans des territoires beaucoup plus petits. Et donc, on va pas regarder ça pour pouvoir analyser tout ce qu'il y a à l'intérieur. Donc, en fait, moi, je n'en sais rien. Mais malgré tout, je trouve ça sympathique de penser que notre action a une petite conséquence comme ça, et puis qu'en tout cas, on a une part de responsabilité, et que certainement il y a une interaction entre nous et le cosmos, ça j'en suis à peu près persuadée, sauf que de là à dire laquelle, je ne sais pas. Voilà.
On peut dire collaborer, c'est travailler ensemble. Labourer, travailler, et cos et cum, c'est ensemble. Donc ça veut dire que l'individu fait partie du cosmos, ne peut pas en être extérieur, et que donc ce qu'il fait a forcément... à son échelle à lui, a forcément une incidence sur l'univers. Et donc, l'univers se construit avec les individus qui sont à l'intérieur. Donc, l'univers n'existe pas s'il n'y a pas les individus qui sont à l'extérieur. Et les individus n'existent pas si l'univers n'existe pas. Ça y est, je me suis mélangée. Je ne sais pas ce que je veux dire. Le cosmos n'existe pas sans les individus qui fonctionnent à l'intérieur, puisqu'il est... la somme du travail de tous ces individus. Et si tu veux...
juste le terme individu.
Par individu, tous les êtres en tant que tels, oui. Je parle de tous les individus... je dirais les humains. Là, je pense qu'il parlait des humains, honnêtement. Moi, j'étendrais ça. Personnellement, mais Nietzsche, je pense qu'il pensait humain quand il disait individu. Donc les individus représentent son ensemble, interagissent les uns les autres, interagissent avec leur environnement et forment donc le cosmos. Le cosmos n'existe pas sans les individus, sans leur fonctionnement. Et l'individu ne peut pas exister sans le cosmos, parce que sinon il n'a pas de milieu dans lequel agir.
Moi, à force de vous entendre parler, j'ai envie de voir ça de façon extrêmement prosaïque. Tout l'individu, nous sommes de la matière, internés ou pas, nous sommes de la matière. Donc la matière, un jour ou l'autre, se désagrège. Et elle retourne dans l'énergie de la nature, de la vie et du cosmos. Donc.
Oui, c'est le,
à partir
c'est,
de là, c'est, on fait forcément partie de l'univers.
C'est la phrase qui dit « rien ne se perd, rien ne se crée, tout se transforme ».
Puisque nous sommes nous-mêmes composés de matière, et nous finissons matière. Donc,
oui, mais chacun fait partie d'un tout.
Voilà.
Moi, je le prends comme chacun fait partie d'un tout, et chacun a une importance aussi en tant qu'individu. Enfin, moi, je l'entends comme ça. C'est-à-dire qu'il n'y a pas un poids... Enfin, excusez-moi, la phrase c'est... Je vais la relire. Tout individu collabore à l'ensemble du cosmos. Enfin, moi, je le comprends comme ça. C'est tout individu. Quel que soit l'individu, est-ce qu'il n'a pas le même poids que notre individu? Est-ce qu'il ne fait pas partie de ce même tout? À égalité. quelque part. Donc ça remet à la fois l'individu, enfin chaque personne un peu à égalité au centre, et ça lie tous les individus, comme tu disais, dans un ensemble qui est le cosmos. Mais le cosmos, je sais pas, c'est au sens, l'univers, voilà. Ouais. Bon, alors après c'est traduit, c'est pareil aussi. Qu'est-ce qu'il entendait par cosmos? Alors s'il était inspiré par les philosophies orientales, bon, peut-être qu'il avait une certaine idée, enfin une certaine vision du cosmos que je ne connais pas. Enfin voilà.
Moi je pense que Nietzsche voyait le cosmos comme une dynamique, quoi, d'ensemble. Voilà, plutôt qu'un univers, quoi. Voilà.
Oui, j'aurais bien aimé revenir sur ce que disait Nelly, à savoir que quand on parle de mise en danger de la planète, en fait, on parle de mise en danger de l'espèce humaine. Pas seulement. Parce que, justement, l'espèce humaine met en danger la vie, tout simplement, donc la vie des animaux. Alors c'est vrai, moi je suis d'accord qu'il y a beaucoup, beaucoup de possibilités, certainement sur Terre, que tout n'est pas fichu. Ah bon ? Pardon. Qu'il y a beaucoup, beaucoup de ressources naturelles, enfin de vie, je veux dire. Mais en même temps, c'est vrai que quand on répand du pétrole dans la mer, quand on veut prospecter des gaz de schiste ou quand on promeut l'industrie nucléaire, je veux dire, on met en danger réellement la vie, et les animaux, par exemple, ne nous ont rien demandé de ce genre. Et je trouve ça vraiment très grave. Voilà.
Sens de la vie, univers littéraire, cosmos, conscience du temps et rapport à la nature. D'Hubert Reeves à Jean Giono, en passant par Nietzsche et Jim Morrison, les citations proposées étaient éclectiques et les thèmes abordés également. Une réflexion riche, donc, sur le monde, que vous pouvez poursuivre par quelques lectures choisies. Philotage, la philosophie à tous les âges. À lire ce mois-ci. Il y a peut-être 4 ou 5 ans, je découvrais ce livre, un peu par hasard. J'étais en classe de Cagnes, le monde était un des thèmes d'études de philo. Et le titre figurait sur la liste de lecture, parmi beaucoup d'autres, que je n'ai pas choisi, ou même pas eu le temps d'ouvrir. Mais celui-là, je l'ai lu, et ce fut une sacrée découverte, c'est le cas de le dire. Il s'intitule « La sagesse du monde », et son auteur, Rémi Brague, y étudie la cosmologie depuis l'Antiquité, partant évidemment du monde grec et des philosophies hellénistiques, de l'univers, jusqu'au Moyen-Âge, à travers les différentes religions ou courants religieux, évoquant notamment les pensées gnostiques, les reliant au platonicisme, mais aussi au catharisme. Il est intéressant de voir comment cette secte néo-manichéenne, que nous connaissons surtout pour son implantation dans le sud de la France et l'histoire tragique qui lui est associée, divise le monde en deux, croyant en l'existence d'un principe du bien et d'un principe du mal. Ce dualisme, aussi simpliste qu'on peut le trouver, pose tout de même une question pertinente et métaphysiquement troublante. Si Dieu existe, et les cathares partent de cette idée, d'où vient le mal? D'ailleurs, les cathares ne se souciaient pas d'un enfer à venir, mais affirmaient qu'il était une réalité effective, que l'on ne pouvait que constater, ici et maintenant. Bref, un livre à découvrir pour poursuivre ce questionnement et s'inspirer des sagesses antiques ou médiévales pour repenser l'univers, pour, tout simplement, penser à l'univers.
L'universalité, l'universalité de la pensée philosophique du XXe siècle, l'universalité de la pensée philosophique du XXe siècle repose sur la controverse existante entre les individualités d'écriture et l'instinct surréaliste sous-jacent chez la plupart des auteurs, tout en respectant la linéarité de la pensée du monde occidental.
Oh la vache!
Philotage, la philosophie à tous les âges.
La philosophie, ça devrait plutôt être une ouverture sur le monde, se dire, voilà, la philosophie, c'est quelque chose d'ouvert, vous pouvez avoir toutes les opinions, donc profitez-en, dites ce que vous voulez. Et...
Alors, est-ce que vous aimez ça, vous, la philosophie ?
J'aime parce que j'aime bien les histoires que tu racontes, j'aime bien parler, et surtout qu'on parle dans le micro.
Philotage, la philosophie à tous les âges.